Nous sommes le 19 février 2020 et j'ai commencé ma préparation de marathon. Bonjour, 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 c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, mon podcast sur le running, sur le lifestyle sportif, sur aussi ma remise en forme, ma perte de poids, vous savez, hein, c'est un petit peu tout mon parcours que je fais depuis plusieurs années. Et ben oui, c'est la saison 2 du podcast et donc ça correspondait à mon deuxième marathon, et ben c'est le moment de se lancer dans le grand bain. Oui, c'est le moment de se lancer dans le grand bain. Aujourd'hui c'est l'épisode 35 et je vais tout vous dire sur mon plan marathon car je suis officiellement entré dans ma première semaine de préparation marathon, même si pour l'instant je n'ai pas couru. Bah non, je n'ai pas couru. Les aléas de mon calendrier, du temps, de la météo, du vent, de la pluie et aussi, bah oui, d'un emploi du temps qui était un petit peu chamboulé font que je n'ai pas couru, mais j'ai fait du vélo d'appartement. Mais je vais tout vous raconter sur ma préparation marathon. Allez, c'est parti.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mais avant d'aller plus loin, je voudrais d'abord commencer par remercier ceux qui laissent des commentaires, des messages, qui m'envoient des petits messages et autres, et notamment ben, Christophe38 qui m'a laissé un commentaire sur Apple Podcasts. Alors vous savez qu'Apple Podcasts, hein, vous pouvez aller mettre une note, vous pouvez mettre un petit commentaire, ça aide le podcast à se faire connaître, à se développer, c'est encourageant aussi, c'est sympathique. Vous savez, on aime bien avoir des encouragements sur le bord de la route, et ben là, c'est un petit peu comme les encouragements sur le bord de la route. Alors là, c'est un encouragement qui est venu de Christophe38, qui me dit « Tu me régales à chaque podcast, continue comme ça et change rien, c'est parfait et bonne préparation marathon pour ma part, le mien et celui d'Annecy le 19 avril. » Ah oui, Annecy, oui, ça doit être un super beau marathon. J'ai des collègues de club qui l'ont fait, hein, l'an dernier ou il y a 2 ans. Je pense effectivement que c'est un chouette rendez-vous, voilà, j'en ai entendu que du bien, et je pense, ben Christophe, merci d'abord pour ton commentaire, t'es en pleine prépa toi aussi, j'espère que ta prépa se passe bien, et en tout cas, que ce marathon, bah tu vas y prendre beaucoup de plaisir. Je remercie aussi dans cet épisode Hermano. Alors Hermano, c'est le premier sponsor officiel du podcast via Patreon. La semaine dernière, je vous avais expliqué que j'avais lancé un Patreon sur, alors, en fait, patreon.com/km42, enfin KM42, vous savez, c'est une plateforme qui permet de financer le contenu, qui permet de financer les créateurs. J'ai dit qu'en fait, pour moi, hein, vous savez que mon métier, c'est d'être créateur de contenu en partie, hein, je fais aussi du conseil, du coaching, de la création de sites, je fais pas mal de choses, mais mon ambition aussi, c'est d'arriver à vivre de mes contenus, de créer quelque part, bah, développer mon entreprise autour de la création de contenu, je le dis très clairement, très franchement, et donc bah, y a des sources de revenus qui se posent et autres, et là, je fais un essai sur Patreon de voir, voilà, comment ce que ça peut donner. Alors, le principe, c'est que si vous trouvez que ce que je fais est intéressant et si vous avez envie de m'aider à financer, bah, finalement, tout ce qu'il y a autour du podcast, mais tout simplement ma vie, soyons clairs, mon entreprise, vous pouvez le faire en allant sur patreon.com/km42. Vous pouvez donner entre 1 euro par épisode à plus, tant que vous voulez. Vous pouvez plafonner, si vous voulez donner que 2 euros par mois, vous pouvez dire, bah, je plafonne, etc. Donc là, vous pouvez gérer comme vous voulez. Il y a des petits bonus qui sont donnés, c'est-à-dire que je vais mettre des petits bonus en privé. Alors, ce que je vais déjà commencer à faire, en fait, c'est que je vais faire un petit journal audio. Ça va être une sorte de deuxième épisode, vous voyez, un petit peu, qui sera, lui, privé, en fait, dans lequel je vais donner un ressenti sur mes séances d'entraînement. C'est-à-dire que donner plus de détails sur les séances d'entraînement, parce que là, si je peux pas vous donner toutes les séances d'entraînement précises, etc., les ressentis, ça serait long, ce serait pas très intéressant, etc. Donc ici, là, dans le podcast classique, on va plutôt faire, je ferai plutôt des bilans, en fait, vous dire où j'en suis un petit peu chaque semaine, hein, voilà, comme j'ai fait dans la saison 1 pour la préparation du marathon de Lyon puis de Paris. Mais sur de manière privée, en fait, je vais donner des détails plus importants, plus de ressentis, prendre peut-être plus de temps sur des choses. Je le dis aussi, je vais faire la même chose, mais pas en audio, mais plutôt en texte. Je vais envoyer des petits bonus. Si ça vous intéresse, en fait, je vous ai dit, j'ai des petites séances d'entraînement, j'ai des choses comme ça, je vais faire des petits bonus, je vais les envoyer par mail. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez venir sur le site, vous faites km42.run, et dessus, vous avez un petit formulaire de contact, un petit formulaire d'inscription à newsletter pour recevoir des bonus. Dans les bonus, vous savez, je vous ai parlé des exercices que je fais sur la prépa, sur des choses comme ça. Donc, je vais commencer à les faire, etc. Je les enverrai par mail, en exclusivité par mail d'abord. Des petits bonus aussi, j'avais prévu notamment sur les erreurs, je me suis rendu compte, j'ai fait sur la préparation de mon marathon, voilà, des choses comme ça. Et en fait, j'enverrai aussi un petit retour sur le plan, sur le suivi du plan, etc. avec quelques éléments de texte. Et notamment aussi, je pense, ça peut peut-être vous intéresser, sur mes essais d'alimentation, etc. C'est-à-dire que il y a plein de choses que je vous donne à travers le podcast. Il y a plein de choses que je vous donne aussi sur mon compte Instagram @BertrandSoulier, mais en fait il y a des choses, en fait il en reste plein de choses à vous donner, et pour l'instant je sais pas trop où vous les donner, donc j'ai décidé de les donner à la fois dans un petit bonus audio et à la fois par mail, sachant que l'inscription mail, elle par contre, est entièrement gratuite, hein, vraiment elle est entièrement gratuite, c'est vraiment un petit bonus, je vous envoie, puis il y en a pas tous les jours, il y aura un mail par semaine, voilà, au grand maximum, qui permettra en fait de donner des petits bonus et vous donner un petit peu un accès aux coulisses, parce que je pense qu'il y a des choses complémentaires sur l'entraînement, sur comment j'envisage les choses, etc. Et pour revenir sur le financement par Kilomètre 42 et notre premier patron finalement, hein, Hermano, je voulais vous dire un petit mot, parce que Hermano, en fait, vous le connaissez, hein, parce que l'an dernier je l'avais invité pour venir parler marathon. Vous savez, c'était un épisode que j'avais fait avant le marathon de Paris, sur, je lui ai demandé les conseils d'un marathonien chevronné, et Hermano en a fait 9, hein, je crois. Donc je lui ai demandé un petit peu ses conseils, on avait discuté avant, et puis on avait fait un petit peu le match retour sur son podcast à lui, parce qu'il est, podcasteur aussi. Donc il y a un podcast qui s'appelle Salut les sportifs, hein, et donc il parle de courses, marathon et autres. Mais en fait, il y a aussi alors deux autres podcasts que je vous recommande d'aller écouter. Il participe au podcast de Nakan.ch. Alors Nakan.ch, vous savez, il fait beaucoup de tests techniques, etc., de montres et autres. Si vous voulez acheter une montre, il faut aller sur Nakan.ch, qui vous donne tous les conseils. Et en fait, ils ont un podcast où ils parlent de nutrition, de technologie, de plein de choses. Et on avait parlé, il m'avait invité une fois pour parler de minimalisme dans un épisode. On avait parlé de ma transition vers le minimalisme. Ils avaient aussi invité Thibaut, et on avait parlé à quatre comme ça de minimalisme, de pourquoi je cours en Five Fingers, par exemple, pendant l'été, comment j'étais passé sur Ultra, etc. Enfin, tout ça. Et puis, il a aussi un autre podcast qui s'appelle Dans les vestiaires, et c'est un podcast alors là où il décortique, ils sont deux, les difficultés rencontrées par les sportifs de haut niveau pour financer leur carrière. C'est extrêmement intéressant, parce que si vous n'avez pas idée de comment les carrières sont financées, des fois vous voyez des athlètes qui sont aux Jeux Olympiques, certains qui sont même champions d'Europe, hein, par exemple, des choses comme ça, et vous rendez compte qu'en fait, ben, ils n'ont pas beaucoup d'argent pour financer leur carrière, que trouver des financements, trouver des sponsors, etc., c'est très compliqué pour eux. Et en fait, ils abordent cette thématique-là, c'est vraiment très intéressant, parce que ça vous montre aussi que, ben, pour eux, il y a l'entraînement physique, il y a l'entraînement invisible, mais il y a aussi l'entraînement, j'ai envie de dire, comment on supporte tout ça. Et c'est vraiment extrêmement intéressant, donc je vous mettrai tous les liens en note de l'épisode. D'ailleurs, à propos de ces liens en note de l'épisode, j'ai décidé de faire quelque chose. Je vous ai dit, on est à l'épisode 35. J'ai décidé désormais de numéroter les épisodes. En tout cas, je vous donnerai le numéro d'épisode dans les podcasts. C'est intéressant parce que vous allez pouvoir aller sur le site maintenant. Vous ferez km42.run/le numéro d'épisode. Là, par exemple, 35. Et vous retrouverez les notes d'épisode, les informations que je vous donne. Par exemple, sur les semaines précédentes, j'ai donné beaucoup d'informations dans le podcast. J'ai répondu à beaucoup d'éléments, etc. Il y a des fois des choses, peut-être vous n'avez pas le temps de les noter, de regarder vraiment. Si vous allez sur le site, vous aurez les compléments. Mais des fois, pour les retrouver au fur et à mesure, ça va être un petit peu compliqué. Donc là, maintenant, je vais numéroter, en tout cas sur le site, les épisodes. Je vous donne dans les notes de... Vous regardez votre lecteur de podcast, vous aurez bien sûr les numéros d'épisodes dedans qui sont marqués. Et là, hein, par contre, sur le site, vous pourrez les retrouver et donc retrouver les notes. Vraiment, vous donner les détails des éléments complémentaires. Alors, certains épisodes, il y a moins d'intérêt, mais les épisodes où j'ai donné beaucoup d'informations, notamment, eh ben, vous aurez des notes qui sont détaillées, hein, qui, il y a vraiment même des fois des compléments, des choses, je me suis rendu compte, j'ai oublié de les donner dans le podcast, et ben, dans ce cas-là, je les mets, directement sur le site. Et maintenant, il est donc temps de parler de la préparation marathon. Mais avant de parler de la préparation marathon, on va parler de ma pré-préparation marathon. Oui, je vais faire un petit bilan de ma pré-préparation marathon, qui s'est très très bien passé. Je vous en ai parlé, ma petite routine de comment je me préparais physiquement, mentalement à préparer le marathon. Ça s'est vraiment très bien passé. Je me sens beaucoup plus en forme. Bon, il y a eu les petits rhumes, les petites choses comme ça, etc. Mais vraiment, je me sens plus physiquement tonique, vous voyez, c'est vraiment le cas, et donc c'est vraiment cool. J'ai repris des séances plus en volume, plus importantes, hein. La semaine dernière, par exemple, j'ai réussi à aller courir 4 fois entre les séances de club et les séances tout seul, donc ce qui pour moi était important, puisque 4 fois, ce sera mon nombre d'entraînement dans la semaine, pendant les 10 semaines qui vont venir de la préparation marathon, donc c'était important de retrouver plus de volume, hein, parce que j'avais fait des semaines qui étaient très petites, hein, vraiment, je l'avais dit, mon mois de janvier avait été vraiment calme, et donc là j'ai réussi à retrouver un peu plus de volume, et en fait ce qui est intéressant aussi, c'est que je me suis rendu compte sur les séances de piste que j'arrive aussi à retrouver plus de vitesse, et de piste et de seuil, j'ai même battu mes records sur Strava alors que j'ai l'impression de me traîner, et donc ça c'est pour moi un très bon signe. J'ai profité de cette période-là dont je vous ai parlé de ma routine, vraiment, et qui va se poursuivre hein, d'ailleurs sur tout ce qui est pompe, tout ce qui est souffle, respiration, tout ce qui est gainage, tout ça. Donc là, ça va se continuer pendant la préparation marathon. J'ai aussi préparé, hein, pendant cette pré-préparation marathon, j'ai aussi recalé des choses sur l'alimentation. Bah oui, vous savez, les fêtes de Noël, hein, manger trop de sucre, de la dinde, le gras, etc. On prend des mauvaises habitudes. Et puis moi, voilà, les mauvaises habitudes, il y a une époque, si je faisais 105 kilos, c'est que j'en étais bourré de mauvaises habitudes. J'adore le sucre, voilà, vous mettez une tablette de chocolat, j'adore le sucre, j'adore tout ce qui est sucré, etc. Je suis pas trop salé, mais alors le sucré, qu'est-ce que j'adore ça. Et en ce moment, en plus, c'est la période des bugnes, vous savez, les petits beignets. Bon, bah bref, ouais, c'est un truc, pour moi, c'est compliqué, cette histoire-là. Donc, j'ai appris avec le temps à me raisonner, à savoir comment gérer ça, etc. Bon, je sais qu'en préparation marathon, ça va brûler la calorie, hein, comme on dit. Donc là-dessus, je m'inquiète pas beaucoup. Mais ce qui est très intéressant, c'est que j'ai réussi à recaler, en fait, à reprendre certaines bonnes habitudes. Donc, je dis, hein, moins de sucre à Noël, moins de chocolat. Mais en fait, il y a des choses aussi sur lesquelles j'ai fait attention. C'est-à-dire que moins de féculents aussi, par exemple. Plus de protéines végétales, plus de légumes, notamment du cru et des jus. Hein, parce que ma femme se fait plus de jus, des jus de légumes, mélange de jus, de fruits, etc. Enfin, pas trop de jus de fruits, mais bon, pour on va dire un sucré, certains jus de légumes qui sont un petit peu amers, elle met une petite pomme dedans, une petite poire. Mais donc là, il y a des petites choses comme ça, voilà, qui permettent aussi. L'avantage du cru, hein, c'est que ça donne tout de suite de l'énergie, de la vitalité, puisque dedans, il y a, vous savez, la cuisson tue les minéraux, tue certains minéraux, certaines vitamines. Donc là, le cru vous donne certaines vitamines, etc. Mais le problème, c'est la digestion. Digérer du cru avant d'aller courir, c'est pas forcément facile. Digérer avec des jus de fruits qui sont pas cuits, conserve moins de fibres, etc. C'est plus facile, voilà, c'est clairement plus facile. Et puis aussi, on a accentué les soupes, par exemple, des choses comme ça. Sans oublier, je me suis mis à faire des jeûnes intermittents les lundis, vous savez, le fameux fasting. En fait, c'est-à-dire que le dimanche soir, mon dernier repas est autour de 19h avec ma fille et ma femme, et puis je ne mange pas jusqu'au lendemain, environ entre 12h ou 13h, donc ce qui fait un jeûne entre 16 et 17h, dans lequel j'ai placé une séance le lundi en endurance fondamentale, donc à jeun, mais pas à jeun le matin à 5h ou 6h, mais à jeun, je l'avais dit, autour de midi, entre 11h et midi, donc vraiment là, vraiment, il faut pas, vraiment, on est en fin de jeûne. Ça me permet notamment d'éliminer, vous savez, les excès de week-end. J'étais très sceptique sur le jeûne intermittent. Je me disais, ouais, ça va tout détraquer, moi, il me faut mon petit-déj, etc. Le risque, en fait, et c'est ça que je le mesure, c'est que le risque, en fait, du jeûne intermittent pour moi, c'est que quand la jeûne se termine, c'est-à-dire ne pas manger pendant 16 ou 17 heures, quand le jeûne se termine, il faut pas que je tombe ensuite dans la fringale, vous voyez, l'envie de manger du chocolat ou des choses comme ça. Alors, si je saute le repas de midi, j'arrive en fin de journée vraiment affamé. Si je fais petit déjeuner, que je me dis je mange pas jusqu'au soir, c'est compliqué pour moi. En revanche, ne pas manger le petit déjeuner, sauter le petit déjeuner et arriver jusqu'à midi, c'est beaucoup plus simple pour moi. Je me suis rendu compte que c'était plus simple. Et donc ça me permet, ben, vous voyez, quand il y a eu des excès, par exemple le samedi, le dimanche, etc., trop de gâteaux au chocolat, des choses comme ça, ça me permet de les éliminer. Et en fait, je trouve que c'est une bonne habitude. Le jeûne intermittent, c'est aussi fait, vous savez, pour faire mettre au repos tout ce qui est le ventre, hein, tout simplement, la digestion, le système digestif. Et je vais tester un petit peu sur cette préparation marathon, de voir ce que ça fait, d'essayer de maintenir cette habitude du lundi, c'est-à-dire de faire un jeûne intermittent tous les lundis, comme ça. Je vais pas le faire tous les jours, voilà, mais faire une fois par semaine pour caler un petit peu tout ça, je trouve que ça m'a apporté du bien. Donc je vais voir un petit peu comment ça se passe. Et en fait, ces bonnes habitudes, je me suis rendu compte que ça a eu un résultat sacrément intéressant sur la balance, cette histoire-là. C'est que mon poids a chuté. Voilà, j'avais pris un petit peu de gras, je m'étais un petit peu grassouillé, je sais pas comment on peut dire, remplumé. Non, je peux pas dire je me suis remplumé parce que j'étais pas maigrichon, hein, non plus. Mais en fait, résultat sur la balance, je suis à 79,8 kilos. Donc je suis en dessous de la barrière des 80 kilos, ce qui était mon objectif dont je n'osais plus rêver à une époque. Quand j'ai perdu du poids, quand j'ai commencé, ça c'est une anecdote et je vous en parlerai plus dans l'épisode de la semaine prochaine. Mon ambition, c'était de dire j'aimerais un jour arriver sous les 80 kilos. Et en fait, je m'étais convaincu que je n'y arriverais jamais. C'est-à-dire que quand on part de 105 ou 106 kilos, se dire je vais être à 90 kilos, c'est déjà pas mal. À 85, c'est pas mal. Et puis ça stabilisait autour de 82, 83. Et je me suis dit, bon, de toute façon, pour mon mode 83, faire autour de 82, 83, bon, c'est pas si mal que ça, etc. T'as 42 ans, mon gars, et tout, tu y arriveras, voilà, il y a un moment donné à faire porter ta bouée tout le reste de ta vie. Et en fait, petit à petit, je me dis, mais cette bouée, je peux pas la faire partir quand même, ça m'énerve cette histoire-là. Et ceux qui, des fois, ont discuté avec moi savent, hein, que j'aimerais bien avoir des abdos un jour qui se dessinent. Vous voyez, juste un jour, une plaquette d'abdos, un petit bout de carré de chocolat qui se dessine. Bon, pour ça, il faut que je mange moins de chocolat. Mais, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que j'ai perdu 2,8 kilos, hein, par rapport aux 2 janvier, c'est-à-dire par rapport à vraiment le moment où on était en plein dans le chocolat. Donc, j'ai perdu presque 3 kilos. Ce qui est, en fait, j'ai perdu 1,4% de masse grasse, ce qui est pas mal. Enfin, donc je descends à masse grasse qui est autour de 18. J'ai été plus fin que ça, et c'est là, et pour ça, je vous donne cette anecdote, ce poids, etc. Parce qu'en fait, au départ du marathon de Paris, je faisais 78,4 kilos. Vous voyez, encore 1,4 kg de moins. Et je faisais 16,8% de masse grasse, vous voyez, encore 1,2 point de masse grasse de moins. Et c'est pas une question, vous voyez, pour la vitesse, etc., parce que finalement, je cours le marathon en 3,35, en 3,45, ça ne changera pas grand-chose à ma vie, cette histoire-là. Je cours pas après le podium, hein, je cours pas après les médailles, je cours après le fait d'être heureux, hein, c'est ce que je vous ai dit, hein, c'est ça, moi, le but du jeu, c'est d'être heureux, c'est d'être bien dans ma peau, c'est d'être de trouver du bonheur dans la course à pied, dans le sport, et dans le fait d'être bien dans mon corps et dans ma tête. Et donc, ça aide quand même de perdre du poids, parce qu'on s'allège, hein, c'est éviter de courir avec trop de poids sur soi, etc. Mais en fait, j'avais fondu un petit peu pour la préparation du marathon de Paris. Enfin, en tout cas, j'avais fondu sur la préparation, j'avais repris un petit peu dans la dernière semaine à force de manger des pâtes, mais j'avais fondu. Et en fait, ce poids-là de 78,4 kilos, c'était officiellement mon poids le plus bas du siècle. Oui, du 21e siècle. J'avais jamais été aussi léger au 21e siècle. J'avais toujours été plus lourd, hein, toujours. J'étais passé de obèse à un gars qui passe dans les IMC qui sont corrects, etc. Et c'était vraiment une grande victoire. J'étais super heureux. Les photos, d'ailleurs, on voit, j'étais plus fit, etc. Et vraiment. Et donc là, pourquoi je vous donne cette anecdote du poids? Parce que d'une part, je vous en parlerai la semaine prochaine. Comment j'avais perdu ce poids, en fait, je vous en parlerai la semaine prochaine, mais aussi pour voir si finalement la préparation marathon telle qu'elle va se dérouler maintenant, avec l'alimentation, l'hydratation, le repos, l'entraînement physique, va contribuer ou pas à faire baisser ce poids-là. Tout simplement, c'est une sorte de témoignage, un témoin, vous voyez, un élément que j'introduis dans le suivi pour voir, hein, vraiment si ça change quelque chose. Alors, je reviens là-dessus, hein, si vous êtes intéressé par cette histoire de porte de poids, si vous avez des questions sur le poids, je prévois donc de faire un épisode de la semaine prochaine sur le sujet. Envoyez-moi vos questions sur le site, vous avez un formulaire de contact, vous pouvez m'envoyer des questions sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, hein, ou sur Strava même, je peux mettre des commentaires, des choses comme ça. Et en fait, je prendrai vos questions, je vous raconterai un petit peu comment ça s'est passé, je vous donnerai quelques conseils qui me permettront de répondre en fait à cet élément-là qui peut-être, hein, vous pose question, et notamment répondre à une question qui est: est-ce qu'il faut perdre du poids pour courir, ou est-ce qu'il faut courir pour perdre du poids, hein, qui est un peu le coup de la poule et de l'œuf. Bon, voilà, donc vraiment sur cette pré-préparation marathon, j'en suis vraiment très content. Donc la routine se poursuit pendant la préparation marathon elle-même, et j'y ai ajouté à partir de cette semaine de la préparation mentale via Petit Bambou. J'en reparlerai en fait, parce que dans la préparation, on va considérer qu'il y a le niveau physique, il y a le niveau préparation invisible, et puis il y a le niveau préparation mentale. Et moi, sur la préparation mentale, c'est un truc sur lequel je veux axer, notamment parce que le mur que j'ai chopé l'an dernier à Paris, il est aussi dû à mon approche mentale de la course. Il y a l'approche alimentation, mais il y a l'approche mentale, et notamment c'est cette histoire de dire: je ne vais pas taper le mur. Et vous savez que à force de dire je ne vais pas taper quelque chose, on finit par taper quelque chose, tout simplement parce qu'on se rend dans la tête que le quelque chose qu'on ne veut pas taper, qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas faire, finalement, il existe. Voilà, donc je vais me concentrer là-dessus aussi dans les semaines qui viennent. Donc les 10 semaines qui viennent, c'est de la préparation physique avec tout l'entraînement, etc., et aussi de la préparation mentale. Et la préparation mentale, on en parlera un petit peu plus tard. Mais maintenant, il est temps de parler donc de cette fameuse préparation qui débute. Donc c'est parti pour 10 semaines. Mais d'abord, un élément, probablement vous vous demandez, mais sur quel temps je pars? Qu'est-ce que je veux faire? Parce que bon, le premier marathon, on se dit bon, le but du jeu, c'est de le finir. Moi, après, je m'étais dit, j'aimerais bien le finir en 4 heures. Après, à force, vous savez, je m'étais pris au jeu dans ces histoires-là, et puis après avoir couru le semi-marathon de Vichy, et mon temps et tout, tout le monde dit, mais tu peux faire marathon en 3h30, toi. Et je m'étais pris au jeu, donc je me suis dit, bah, je change de sas d'inscription. J'étais passé du sas de 3h45 au sas 3h30. Au départ, je voulais m'inscrire dans le sas 4h. Quand je m'étais inscrit à Lyon, je m'étais inscrit dans le sas 4h. On m'a dit, ouais, mets-toi dans 3h45. D'accord. Et puis le dernier, la veille du marathon de Paris, j'étais allé changer de sas et je m'étais mis dans le sas 3h30. Et ben là à Albi, hein, voilà, qui est le 26 avril, je pars sur le même temps, c'est-à-dire le but de faire 3h30. À Paris, j'ai fait 3h48, mais vraiment à cause, vraiment, je le dis, j'étais, il y a un moment donné, j'étais mal, hein, pas bien physiquement, etc. Mais plutôt sur le plan alimentaire. Et je pense qu'en fait, c'était dû à trop de sucre. Voilà, j'avais fait un bilan, je pense que c'est dû à ça. Donc, je vais travailler là-dessus. Mais en fait, 3h48 pour moi, j'étais content de mon temps. Mais je me dis, bah 3h30, ça serait finalement hein, le temps que je vise. Voilà, je pars sur ce temps-là. Ce 3h30, il correspond à une vitesse, en fait, bah, c'est du 12 km/h, donc finalement, c'est du 5-0-0, pile poil, comme ça, voilà. Et ça correspond, en fait, à 80% de ma VMA. Alors, ma VMA qui est autour de 16, un petit peu entre, ouais, on va dire, on l'arrondit à 16, hein, voilà, on va l'arrondir au-dessus, elle est un petit peu en dessous de 16, ou autour de 16, suivant les tests de VMA. C'est exactement le temps, le rythme prévu par le coach, c'est-à-dire que le coach, quand il a fait le programme d'entraînement, dans le programme d'entraînement, il le fait pour tout le monde, et pour tout le monde, il marque entraînement vitesse marathon, 80% de votre VMA. Donc, ceux qui ont une VMA plus rapide courent plus vite que moi. Ceux qui ont une VMA comme moi courent à même vitesse à moi, 80%. Et en fait, j'ai fait quelques recherches. Je me suis dit, mais il vient d'où ce 80%? Et en fait, et bien, statistiquement, un marathon se court à 80% de sa vitesse maximale aérobie, donc cette fameuse VMA, pour une personne entraînée. Donc, statistiquement, nous courons hein, le marathon à 80% de notre VMA. Ce qui tombe, pas pile poil, puisque ça tombe sur mon objectif. Ouais, oui, c'est pour ça que tout le monde me disait que je peux courir en 3h30. Donc, ce temps de 5-0-0 de 3h30 n'est ni trop rapide, ni trop lent. Même si c'est ma VMA, hein, autour de 16, je peux viser entre 4,41 et 4,45 du kilomètre. Ce qui fait, en fait, un marathon couru autour de 3,18, 3,20, vous voyez, des choses comme ça, peut-être 3,25. Je pense que donc le 3h30 apparaît comme une option raisonnable, voilà, une option raisonnable, sachant que il y a une question au début, est-ce que je m'échauffe ou pas avant, vous savez, j'en avais parlé un petit peu sur mes stratégies d'échauffement ou pas, est-ce qu'il faut s'échauffer ou pas. Moi j'ai dit je m'étais pas échauffé avant le marathon de Paris, donc les premiers kilomètres n'étaient pas courus en 5-0-0 mais plutôt en 5-10, 5-15, vous voyez, donc ça ralentit un petit peu, donc le 3h30 me paraît être une option très raisonnable. On verra au fil de l'entraînement si c'est une option qui s'avère raisonnable ou pas, ou si c'est une option qu'il faut revoir soit à la baisse, hein, c'est-à-dire aller un poil plus vite, soit à la hausse, enfin, ou l'inverse, comme vous voulez. Mais en tout cas, on verra, c'est avec la durée, avec l'entraînement qui parlera, et notamment une difficulté dont je vais vous parler, qui est de placer ma sortie longue. Cette préparation marathon va se faire sur 10 semaines, hein, c'est assez court. En fait, souvent les préparations marathon, vous trouvez des plans sur 12 ou 16 semaines sur un niveau d'entraînement. Mais l'an dernier, j'avais une préparation sur 12 semaines pour marathon de Paris. Pour Lyon, j'ai une préparation sur 12 semaines. J'avoue que pour Lyon, bon, j'ai pas fait, je l'ai pas terminé parce que deux semaines avant, périostite, donc j'ai pas terminé. Et l'an dernier, j'ai commencé par une grippe. Et donc, ma préparation de 12 semaines, en fait, elle a vraiment été de 9 semaines complètes. On va dire 9 semaines et demie, voilà, un petit peu, vous voyez, c'est un truc comme ça. Mais j'ai pas fait une préparation de 12 semaines. Donc, finalement, je me dis que faire une préparation de 10 semaines, c'est pas franchement déconnant. C'est pas trop long, vous voyez, non plus, parce que 16 semaines, ça me paraît très long. 12 semaines, ça me paraissait un temps qui était pas mal. Mais finalement, en 10 semaines, je me rends compte que, bah, pour l'instant, c'est ce que je connais. Voilà, donc l'an dernier, j'ai fait Paris. En arrivant, certes avec un gros mur au milieu du parcours, mais frais comme un gardon à l'arrivée. Oui, parce que quand vous voyez les images, j'étais frais comme un gardon à l'arrivée. Et puis le lendemain, pas trop déchiré non plus. Et en faisant vraiment 9 semaines et demie de préparation, je me dis qu'en faisant 10 semaines de préparation, ça devrait être pas mal du tout. Surtout que par rapport à une préparation sur 12 semaines, c'est un poil plus intense. Donc normalement, je devrais arriver plus préparé, à condition bien sûr de bien suivre et ben à la fois le programme, ne pas surentraîner, hein, et bien penser à se reposer et à tout l'entraînement invisible. Donc maintenant, de quoi est conçu hein, ce plan qui a été conçu en fait par mon coach. Je vous le dis, hein, moi je cours en club. Hein. Le coach, en fait, il a un groupe. Alors on a un bon paquet dans le groupe. Il y a tous les niveaux. On a un bon paquet à partir à Albi. Certains vont partir sur des temps autour de 3 heures au marathon. Certains sur des temps même 2h50, je pense, voire plus rapide pour le coach. Hein, voilà, sur des temps beaucoup plus rapides que ça. Et puis pour moi, eh ben, on est sur donc ce 3h30. Mais tout le monde finalement a le même plan qui va plus ou moins adapter, etc. Et en fait, il tape sur 4 à 5 séances par semaine. Voilà, à peu près 4 à 5 séances par semaine, en disant 4, c'est le minimum, et puis la cinquième est optionnelle. Deux sont incluses dans les entraînements du club. Alors, dans les entraînements du club, le mercredi et le vendredi, on a une séance le mercredi qui est de la VMA courte, voilà, sur piste, et la séance du vendredi, c'est soit une séance de seuil, soit une séance de côte. Séance de seuil, hein, donc par exemple, l'autre jour, c'était des 2000 et des 1000 qui s'enchaînaient, ou c'est des 3000, et puis là sur la préparation marathon, c'est 3 x 4000 par exemple, à 80% de VMA, donc plutôt les séances de seuil seront pas vraiment... les séances de seuil, normalement, la semaine dernière, par exemple, c'était de la vitesse autour du semi ou autour du 10 km, en suivant les fractions qu'on avait. Là, on est plutôt sur de la vitesse marathon, on va dire. Vraiment, à 80% de VMA, on n'est pas sur du seuil pur. Par contre, sur les côtes, il va falloir les monter à toute vitesse, hein, ça c'est sûr. Mais les côtes, hein, c'est un bon exercice. Je pense que j'en reparlerai quand ça va arriver, mais le but, ce qui est intéressant dans les côtes, en fait, bon, d'une part, c'est que ça, monter en côte, vous savez, ça fatigue. Mais en fait, ça oblige à monter les genoux, à travailler la foulée, à céder des bras, etc. Techniquement, c'est un exercice qui est très intéressant. Si vous avez des côtes autour de vous, mais pas forcément des escaliers et des côtes, hein, faites un petit peu de côtes. Mais vous, alors, n'en faites pas non plus. Je sais qu'un jour, j'ai un plan d'entraînement pour Lyon, notamment un plan d'entraînement. Un jour, j'avais une séance, je devais monter 20 fois une côte et j'ai pris la côte la plus raide à côté de la maison. J'ai cru que j'allais, j'en pouvais plus. Au bout de 10 côtes, j'ai changé de côte. J'allais faire une côte plus légère. L'avantage quand vous habitez en Auvergne, c'est qu'il y a tellement de côtes, il y a que des côtes, que à la limite vous pouvez changer. Et nous, quand on fait des montées de côtes, vous voyez, c'est par exemple, soit c'est la même côte, on la monte le plus vite possible, et ça fait une durée autour de entre 1 minute, 1 minute 30, vous voyez, de montée. Et puis des fois, comme on s'amuse pas assez, on rajoute 1 minute de chaise en bas, hein, contre un mur en bas, et puis on remonte, etc. Et on fait ça pendant 30 minutes, 40 minutes. À la fin, vous êtes bien rincé, mais vraiment, ça permet de bien travailler. Ça travaille aussi le mental, hein, de s'accrocher dans ces moments-là, quand ça devient dur, ça travaille aussi le mental. Donc ça, c'est les deux séances de club. Et autour de ça, en fait, on a greffé, alors il a greffé une sortie d'endurance fondamentale, petite sortie footing, hein, avant normalement, donc qui serait la première séance de la semaine, et une sortie longue, bien sûr, du week-end, et puis au milieu de ça, alors la sortie longue, c'est footing plus de la vitesse marathon, hein, tout simplement, donc avec des séquences, alors par exemple, je peux vous donner un exemple, mais celle de qui devrait arriver ce week-end, normalement, en semaine 1, vous voyez, c'est pour vous donner vraiment le truc, c'est footing 1h45 plus 3 fois 20 minutes à vitesse 80% de la VMA. Et puis ensuite, ça va être footing 2h et puis 2 fois 30 minutes à 80% de la VMA. Là, vous voyez quand même, voilà, waouh, ça fait une séance de 3h cette histoire-là. Ça fait une grosse séance, vous voyez, des choses comme ça. Des grosses sorties longues, j'avais pas vu qu'elles étaient aussi longues que ça en fait, carrément. Qui sont beaucoup plus longues que mes sorties longues que je faisais avant d'ailleurs. Je me dis, ça va, non, ah pardon, c'est pas plus, c'est donc, excusez-moi, c'est donc 1h45, dont 3 fois 20 minutes à 80% de la VMA, ouf, je respire, donc voilà, c'est plutôt 1 heure de footing, environ, et puis ensuite, à côté de ça, 3 fois 20, alors oui, ça fait 30 minutes de footing, et puis 3 fois 20 de VMA, et de l'allure marathon, et puis après, un petit footing de récup, on va dire, grosso modo, donc voilà, pardon, excusez-moi, c'est 1h45, 2h, 2h15, 2h15, vous voyez, au maximum 2h30, auquel dedans il y a un élément qui est prévu, c'est de courir un semi-marathon. L'an dernier j'ai fait Vichy et là on part plutôt en groupe à courir le semi-marathon de Feur, donc qui remplacera en fait une sortie longue, hein, voilà, tout simplement. Il y a un jour, c'est soit sortie longue soit le semi-marathon. Semi-marathon, c'est pas mal de faire en test. Il se trouve à un peu plus d'un mois du marathon, tout simplement, et il est dans cette optique-là, en fait, le but du jeu, c'est pas de le courir en vitesse semi-marathon, c'est de courir en vitesse marathon. L'an dernier, j'ai fait Vichy avec une partie en vitesse semi-marathon et une vitesse en partie marathon, c'était un petit peu pour me tester, mais en fait, j'étais parti sur ce 4.45, ce fameux 4.45, vous voyez, pour voir si je le tenais, et effectivement, je l'avais couru en 4.45, quasiment tout le semi-marathon, j'ai couru en 4.45, c'est pour ça qu'on m'a dit, ouais, mais tu peux aller plus vite que ton 3.45 que t'as prévu, mon gars. Effectivement, oui, techniquement, je peux aller plus vite, et c'est pour ça que le 3h30 me semble une option très, 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 très raisonnable dans cette histoire-là. Mais il y a une inconnue et une difficulté, je vous l'ai dit, c'est les sorties longues du dimanche. Vraiment là, c'est une grosse inconnue. C'est ma femme est en formation un week-end sur deux, le samedi et le dimanche. Donc elle part le matin à 8h, elle rentre le soir autour de 18h. Donc elle fait une formation en naturopathie. C'est une formation sur 3 ans. Et donc un week-end sur deux, il y a le samedi et dimanche en formation. Et en fait, ça s'enchaîne, hein, tout simplement. Donc ce week-end-là, par exemple, qui arrive, elle est en formation. Et puis ensuite, le week-end après, elle sera pas en formation. Et puis le week-end. Et puis des fois, comme il y a des vacances, et ben au milieu, il y a des récupérations. Et par exemple, les 3 week-ends avant Albi, elle sera en formation. Voilà. Donc, ce qui veut dire que 3 week-ends, alors les sorties longues, quand même, c'est des sorties qui sont importantes, hein, sur le plan de du temps de course, le plan de quelle est l'allure marathon, de s'habituer à courir à cette allure-là, etc. Mais c'est aussi toute la répétition, le matériel, courir avec la même tenue que ce qu'on va courir, répéter l'alimentation, qu'est-ce que je bois pendant la course, quelle boisson d'effort je prends, est-ce que je prends des barres, est-ce que je prends des... On a parlé des gels, et je disais, moi j'aime pas les gels, donc est-ce que je prends des petites energy balls, est-ce que je prends des barres de céréales, enfin vous voyez, tous ces trucs-là, ça se répète sur les sorties longues, et donc je peux pas faire péter les sorties longues, c'est pas possible de faire péter les sorties longues, même si j'en ai discuté un petit peu, faut que j'en discute avec le président du club. Il m'a dit que lui, dans sa préparation marathon, il en a fait plusieurs, il m'a dit, il n'avait pas tant de sorties très longues que ça, lui, dans sa préparation marathon. Donc vraiment, il y a une petite inconnue là-dessus. Faut que j'en discute avec le coach, avec des personnes expérimentées. Mais pour l'instant, donc, les questions, c'est comment replacer ces sorties marathon, ces sorties longues, sans les faire sauter. Alors, il y a plusieurs cas, il y a plusieurs méthodes pour les faire, pour les pallier. Ça serait en fait faire du vélo d'appartement pendant les siestes de ma fille, c'est-à-dire que pendant que ma fille dort à l'étage, moi je vais faire du vélo d'appartement. Mais normalement, il faudrait pédaler deux fois plus longtemps. Alors ça veut dire que quand il y a une sortie de 2h30, remplacer 2h30 de sortie longue par du vélo, c'est pas possible, il faudrait pédaler pendant 4h. Et dans tous les cas, ça fait la sortie longue, elle est habituée à courir longtemps, et donc il faut garder cette sortie longue longtemps. En fait, dans la préparation marathon, le coach, il a mis une sortie en option, qui est de dire, vous pouvez faire une heure de footing, en fait, elle est placée entre la sortie de seuil et la sortie longue, en fait, vous voyez, le vendredi, il y a la sortie seuil ou côte, hein, voilà, et puis, il y a la sortie longue du dimanche, et entre les deux, il y a une espèce de sortie d'endurance fondamentale de la récup, qui là, moi, je pourrais placer du vélo, en fait, tout simplement, et là, elle serait le samedi après-midi, pendant que ma fille dort, par exemple, là, je peux la placer, ou le samedi matin, si je me réveille tôt, ma fille dort, etc., je peux la placer. Mais remplacer une sortie longue complète, c'est pas raisonnable. Franchement, c'est pas raisonnable. Tant à la fois dans le temps, ma fille dort pas 4 heures, et donc c'est pas bon. Tant aussi dans la mécanique de course, le fait de s'habituer à courir, le fait de s'habituer au matériel, de vraiment de prendre l'habitude de partir courir 2h15, 2h30. Parce que le marathon, faut moi que je joue le 3h, vous voyez. Donc vraiment, ça, c'est un élément qui est important. Donc, la question, c'est comment le décaler. Il y a une solution, ça serait de dire que je vais partir très tôt pour faire la sortie avant que ma femme ne parte, mais ça fait un départ autour de 5h du matin, vous voyez, parce que ma femme, bon, quand elle part, faut qu'elle se prépare, faut qu'elle mange, qu'elle prenne son petit déjeuner, etc. Et si ma fille se réveille à 7h, je peux pas dire à ma femme, écoute, je vais courir à 6h et je reviens à 8h quand tu pars, non. Elle aurait pas le temps de se préparer. Donc, ça voudrait dire que moi, il faudrait que je sois à la maison à 7h, ce qui veut dire que je dois partir avant 5h du matin. Alors, la semaine, je suis levé à 5h. De là dire le dimanche matin je vais partir courir avec la frontale à 5h, parce que là il faut courir avec la frontale, il fait pas jour avant 7h30, même si les journées vont se rallonger, même si on va arriver à un moment donné où le matin on va pouvoir courir plus tôt, moi le matin il y a des fois, l'été je vais courir à 4h30, c'est pas un problème, mais l'été il fait jour, et je vais voir le lever de soleil, là elle est en plein hiver, enfin au début de printemps, ça va être plus compliqué, donc on va voir un petit peu comment le temps se goupille, etc. Ça me semble un petit peu compliqué, il me reste une solution qui est de décaler ma sortie longue au lundi, en fait, c'est-à-dire de décaler mes semaines, et en fait, c'est ce que je vais faire, je pense que ce que je vais faire dans un premier temps, en tout cas, je vais pas pouvoir le faire cette semaine-là, parce que lundi, ça passe pas, mais ça va être tout simplement de dire, eh ben, je vais, pendant que ma fille, et c'est l'avantage de travailler en indépendant, hein, d'être créateur de contenu, travailler en indépendant, etc., c'est de dire que pendant que ma fille fait ses siestes au week-end, eh ben, en fait, si elle dort 2x2 heures, moi, j'ai 2x2 heures de temps de travail, qui correspond finalement à une matinée de travail, voilà, à peu près du lundi, et donc le lundi, ben, je vais y caler ma sortie longue, tout simplement, entre la fin de matinée et la pause déjeuner, voilà, sur ce truc-là, essayer de caler environ 2h, 2h30 de course, ce qui veut dire que, par exemple, si je pars à midi, ben, je finis à 14h30, et une fois que j'ai fini à 14h30, après, derrière, eh ben, je fais une collation, et puis, derrière, ben, je travaille encore un petit peu, et puis ensuite, eh ben, on va récupérer ma fille, et je m'occupe de ma fille, vous voyez. Ça va fonctionner, je pense que c'est le moyen le plus simple de fonctionner, mais dans ce cas-là, bien sûr, ça fait sauter une sortie endurance fondamentale, parce que le lendemain d'une sortie longue, eh ben, il faut du repos. Moi, j'estime qu'il faut du repos, ou alors il faudrait faire du footing léger, ou alors c'est là qu'il faut mettre du vélo. Donc là, vraiment, vous voyez, ça va être un petit peu le feuilleton pendant les 10 semaines, c'est est-ce que je vais arriver ou pas à caler 4 séances. Mais je suis pas le seul, hein. Franchement, j'en ai discuté, même une fille qui court très très bien, etc., elle dit, elle ne voit pas comment elle peut passer 5 séances, elle sait pas comment elle peut passer 4 séances, c'est un peu compliqué, et c'est tout le charme de la préparation marathon aussi, j'ai envie de dire, hein. C'est que ça nous pousse à penser à comment on va préparer tout ça, etc., parce que, par exemple, je fais une collation en retour, mais ça veut dire que ma collation, faut que je l'anticipe un petit peu, ce que j'ai commencé à anticiper, parce qu'en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que dans ma pré-préparation marathon, j'ai commencé aussi à anticiper le fait de préparer des repas à l'avance. Par exemple, je vous donne un exemple, et ça, c'est dommage, j'aurais dû vous le dire avant, mais hier j'avais cours toute la journée, je donne des cours à la fac, j'ai cours toute la journée de 8h à 15h, j'ai juste une heure de pause à midi, et donc cette heure de pause, j'ai dit je vais aller marcher. Bah oui, c'est l'endurance fondamentale d'aller marcher, je vous l'avais dit, donc d'aller marcher en endurance fondamentale, tranquillement, et d'aller manger au soleil. Et donc, d'habitude, ce que je fais dans ces cas-là, bah vous savez, c'est la tentation d'aller prendre un sandwich à la boulangerie du coin. Et bah hier, non, j'avais anticipé, m'étais fait un petit bento, dans mon bento, j'ai mis des brocolis, j'ai mis de la choucroute crue, alors je vous dirai un jour les bénéfices de la choucroute crue, c'est pas extrêmement bon, mais moi ça passe bien. Et je m'étais fait des petits makis végétariens avec du riz semi-complet. Dedans, j'ai mis soit du chou qui me restait, du brocoli, soit aussi du tartare d'algues. Oui, un jour, je vous parlerai du tartare d'algues. Hein, vous trouvez ça en magasin bio. Plus donc la feuille d'algue autour du riz. Hein, finalement, ça me fait un apport en poisson. Vous voyez, ça me fait un apport en poisson. Et mon naturopathe m'a dit qu'il faut manger du poisson 3 fois par semaine. Donc, on peut arriver à baisser, à augmenter sa dose de poisson, par exemple, en mangeant du tartare d'algues, en mangeant du maquis, des choses comme ça. Et moi, je fais des maquis végétariens, ce qui me permet, en fait, ça évite que, vous voyez, que le poisson, il tourne, ou je sais pas quoi, enfin voilà, il n'y a pas besoin de les garder au frais, ça craint rien du tout. Et vous voyez, ça, c'est une sorte d'habitude que j'ai prise aussi, de remplacer tout simplement, d'anticiper, c'est-à-dire que la veille, de faire la cuisine pour préparer mes repas des deux jours où, quand je sais que je suis pas là, etc. Et par exemple aussi, hier, j'ai fait cuire des haricots blancs pour faire un petit goûter gourmand avec des, vous voyez, des petits gâteaux à base de haricots blancs. Alors vous allez me dire, c'est un peu bizarre cette histoire-là, mais je vous en reparlerai parce que dans les protéines végétales, les haricots, c'est super bon, il y a 23% de protéines, 23% de protéines dans les haricots blancs, et même dans certains, il y a 26% de protéines. Le beurre de cacahuète, c'est 28% de protéines. Ouais, c'est super intéressant. Non mais devenir végétalien, vegan, je sais pas si c'est possible. Enfin, pour moi, pour l'instant, c'est pas possible. Mais en tout cas, baisser la dose de viande, pour moi, c'est quelque chose que j'ai fait. Et vous voyez, ça, c'est une astuce que je donne. Bon, mais ça, je vous en reparlerai plus. Hein, et si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Mais ça vous donne un petit peu, vous voyez, l'état d'esprit dans lequel je me suis placé. C'est-à-dire que avant, mon réflexe, oui, quand j'étais gros, je sors aller à la boulangerie, m'acheter un sandwich, prendre une quiche, un sandwich, des gâteaux, etc. Après, quand j'ai maigri, oui, je continuais à aller à la boulangerie en me disant, je sais quand même que ça va être un petit peu compliqué, etc. Maintenant, je suis dans un état d'esprit où je me dis, quand même, tu vas pas déconner, tu t'entraînes 7 à 8 heures par semaine avec tes sorties, bah oui, ça fait 7 à 8 heures cette histoire-là, tu vas t'entraîner 7 à 8 heures, faut pas déconner non plus en allant manger n'importe quoi, en bouffant n'importe quoi, en surchargeant avec du pain, en surchargeant avec trop de choses, etc. Tu as besoin d'une certaine volume d'alimentation. Je soigne ma quantité nécessaire de tout ce qu'il faut, hein, les bonnes graisses, les glucides, le sucre, etc. Il faut du sucre, il faut de tout, il faut de la graisse, etc. Mais avec des choses qui soient de meilleure qualité sur le plan nutritionnel. L'idée, et j'avais dit dans un autre podcast que je fais, mon podcast perso, vous trouvez sur mon blog perso, bertrandsuet.com, j'avais dit, l'idée, et c'est quelque chose que ma femme me ramène avec la naturopathie, cette histoire-là, c'est pas de se nourrir, mais de se nutrir, au sens où de se nourrir pour aller chercher les nutriments dont nous avons besoin pour courir. C'est vraiment un vaste sujet dont je reparlerai souvent, dont aider la semaine prochaine sur cette histoire de perte de poids, de comment j'ai finalement perdu mon poids, comment j'ai mis plusieurs années pour le perdre, mais comment j'arrive à le stabiliser avec des variations de 1 à 2 kilos. Mais vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions sur kimet42.run, hein, il y a un formulaire de contact, vous envoyez une question par Instagram, en message privé, etc. Je mettrai un sticker de questions aussi, bien entendu, sur mes stories sur Instagram. Donc là-dessus, vous pouvez le faire sans aucun problème. Et je vous raconterai un petit peu tout ça, hein, un petit peu le protocole que j'ai mis en place, comment j'ai réussi à faire, et comment ça, c'est ce qui m'aide aussi à envisager cette préparation au marathon d'une manière plus sereine, hein, d'envisager ces 4 ou 5 séances par semaine. Donc je vous répète, hein, vraiment, moi je pars sur 4 à 5 séances par semaine. Je dis, hein, une à deux séances d'endurance fondamentale, une sortie longue, deux entraînements club avec de la vitesse. Oui, on garde de la vitesse, avec de la VMA, etc. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, la séance de ce soir, voilà, je vais essayer de pas me tromper dans ce coup-là quand je vais la lire, c'est deux séries de 6 fois 300 mètres à 95% de la VMA et 100 mètres de récup entre chaque. Oui, donc c'est footing 30 minutes, deux séries de 6 fois 300 mètres à 95% de la VMA et récup 100 mètres entre chaque. Donc ça fait un volume, vous voyez, qui est pas énorme, hein, non plus, mais par contre qui va être intense, voilà, 95% de la VMA, c'est des bonnes séances, c'est vraiment des bonnes séances, et après la semaine prochaine c'est des 400, 500, 600, 500, 400, vous savez, c'est les fameuses pyramides, sauf qu'on l'a fait deux fois la pyramide, donc vous voyez, c'est le charme de ça, et je dis aussi, si vous voulez voir ces séances, donc je ferai des bilans bilans audio, des bilans écrits, pour dire un petit peu comment elles sont structurées. Et bien sûr, vous les retrouvez sur Strava, parce que sur Strava, en fait, dans le titre de chaque entraînement, je mets le détail de à quoi ça correspond pour que moi j'arrive à les retrouver. Donc sur Strava, vous en retrouvez aussi en partie le détail, et je détaillerai un petit peu plus ailleurs. Voilà, vous savez tout désormais sur cette préparation marathon, sur vers quoi je, dans quoi je suis embarqué, hein, voilà, dans quoi je suis embarqué, dans quoi je vous embarque, vous, avec moi. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, alors des questions tant sur le poids pour la semaine prochaine, que des questions globalement hein, sur la préparation marathon, mais aussi si vous avez des astuces, vous savez, je parlais d'astuces sur la nutrition, sur l'astuce sur les boissons, etc. Si vous avez des astuces, comment, à quelle heure vous entraînez, par exemple, comment vous faites, parce que certains d'entre vous, moi je dis j'ai un enfant, hein, et elle a 2 ans, mais il y en a certains qui écoutent ce podcast, qui en ont peut-être 2 ou 3, alors qui ont des âges, vous voyez, 4, 5, 6 ans, etc. Je sais, certains vont courir de nuit, etc., très tôt le matin, très tard le soir. Moi je voudrais pas courir tard le soir, parce que mon objectif, je vous l'avais dit, c'est d'être au lit à 22h. Et si on se lève à 5h, 7 heures de sommeil, voilà, il y a un moment donné, il les faut, donc il faut être au lit à 22h, je peux pas aller courir en me disant, et puis je veux être là pour le coucher de ma fille le plus souvent possible, et donc je peux pas aller courir en me disant, je rentre tous les jours à 20h, 21h, ma fille, elle dort, et le but du jeu, c'est pas de courir pour courir, le but du jeu, c'est de courir pour être bien, et j'avais dit, hein, moi, ce que mon ambition à moi, c'est d'être bien pour être le plus longtemps près de ma fille. Donc, le but du jeu, c'est pas d'aller courir et ne pas voir ma fille. Et donc, c'est comme ça, vous voyez, que j'essaye de goupiller tout ça, d'essayer de placer ça dans cet agenda-là. Donc, si vous avez des astuces, dites-moi vous comment vous faites, hein, des témoignages, etc. Ça m'intéresse. Et c'est aussi pour ça que je vais relancer des invitations pour avoir des invités, justement, pour discuter de ces sujets-là. Comment les uns et les autres ont fait pour caler ces séances d'entraînement, je trouve que c'est un sujet qui est vraiment extrêmement intéressant. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous des bons entraînements, des bonnes séances, des bonnes préparations marathon pour ceux qui sont dans la même préparation marathon, des bonnes préparations pour les semi-marathons aussi, j'ai vu dans certains commentaires, etc. Bonne reprise pour ceux qui sont en reprise, bonne séance si vous n'avez pas d'objectif particulier, hein. Peut-être que vous êtes en train de planifier aussi votre saison, peut-être que vous dites, cette saison, je planifie pas grand-chose, j'attends un petit peu, mais je vais courir tranquille à la cool. C'est une optique aussi. Dites-moi un petit peu tout ça, ça m'intéresse. Et ça me donne aussi des idées après pour les épisodes qui viendront dans le futur. Même si, bien sûr, vous avez compris que dans les 10 semaines qui viennent, c'est Objectif Albi. Voilà, Objectif Albi, c'est parti. C'est parti maintenant pour 10 semaines. Et donc, on se retrouvera la semaine prochaine pour parler de tout ça. Allez, courez bien, bonne préparation, amusez-vous bien. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.